Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. The London Howling Wolf Sessions, dont je vais vous parler aujourd'hui, est un album du bluesman Howling Wolf sorti en 1971 sur Chess Records et sur Rolling Stone Records en Grande-Bretagne. C'était l'un des premiers albums de blues de Super Session, mettant en scène un maître du blues parmi les musiciens célèbres de la fin des années 60, en l'occurrence Eric Clapton, Steve Winwood, Charlie Watts et Bill Wyman, entre autres. L'album a culminé à la 79e place du Billboard 200, ce qui peut être considéré comme un succès moyen, et pourtant c'est un album essentiel pour comprendre la relation qu'il peut y avoir entre le Chicago Blues et les jeunes stars de la pop-rock music. Tout a commencé dans les coulisses du Fillmore, après un concert de Bol Peterfield Blues Band, de l'Electric Flag et aussi de Cream de Clapton. Norman Deron, producteur de Chess Records, a repéré les guitaristes des deux derniers groupes, Mike Bloomfield et Eric Clapton, en train de bavarder dans les coulisses. Deron s'est approché de Clapton et sans trop y réfléchir, lui a demandé « Aimerais-tu faire un album avec Howling Wolf ?» Après avoir confirmé que l'offre l'intéressait, Clapton a accepté et Deron a organisé des sessions à Londres par le biais de l'organisation de Chess pour assurer la coordination avec le calendrier assez chargé d'Eric Clapton. Le 4 mars 2003, le propriétaire actuel du catalogue Chess Records, Universal Music Group, a publié une édition de luxe regroupant tous les enregistrements effectués dans la totalité des London Sessions. Parmi les morceaux bonus du premier disque figuraient notamment trois performances initialement publiées sur un album paru en 1974, mais resté relativement discret. Alors que le deuxième disque comportait des prises et des mixages totalement différents et complètement inconnus jusque-là. De son côté, Eric Clapton a obtenu la participation de la section rythmique des Rolling Stones, le bassiste Bill Wyman et le batteur Charlie Watts, et également la présence du pianiste Ian Stewart, qui est souvent appelé le sixième Rolling Stones. Tandis que Norman Deron réunissait d'autres musiciens, dont le prodige de l'harmonica, âgé à l'époque de 19 ans, Jeffrey Karp, le guitariste de Howling Wolf, Hubert Suslin. Et les sessions ont eu lieu du 2 au 7 mai 1970 au studio Olympics de Londres. Mais le premier jour, le 2 mai, Charlie Watts et Bill Wyman n'étaient pas disponibles. Aussi, ils ont fait appel à des ressources différentes et Klaus Voormann et Ringo Starr se sont proposés aussitôt. Sur l'album initial, Ringo Starr figure sous le surnom de Richie. Norman Deron pensait qu'il serait impossible de mentionner le nom d'un Beatles. Klaus Voormann, un bassiste assez connu à l'époque, travaillait très souvent avec les Beatles, notamment dans leurs travaux en solo. Bref, pour les jeunes stars anglaises, jouer avec Howling Wolf était une expérience irremplaçable. Et le premier morceau que nous allons écouter, « Ain't Superstitious », est une chanson écrite par Willie Dixon et enregistrée au départ par Howling Wolf en 1961. Elle relate diverses superstitions, dont celle d'un chat noir qui traverse la voie. Et ça rappelle quelque chose, je suppose, à tout le monde. Au départ, « I ain't superstitious », qui veut dire « je ne suis pas superstitieux », n'est pas simplement une version électrique du blues tel qu'il est pratiqué dans le Delta, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, pour l'époque, de par sa progression en mesure totalement évolutive. C'est un blues, en quelque sorte, cousin de Chicago, plus agressif, plus sophistiqué, qui assimile à la fois le jazz contemporain, le rhythm and blues et les formes pop du rock. le pianiste, Harry Gray, les guitaristes Hubert Sumlin et Jimmy Rogers, et aussi le batteur Hamley et Willie Dixon à la contrebasse, faisaient partie du groupe qui a accompagné Wolf en 61. Ici, il ne reste qu'Hubert Sumlin à la guitare. C'était I Ain't Superstitious par Howlin' Wolf et les jeunes stars anglaises pour OxyWeb Radio.
One summer day, she went away.
Sitting on top of the world, qu'on peut traduire par Assis au sommet du monde, est une chanson country blues écrite au départ par Albert Vinson et Lenny Chatman. C'était des membres essentiels des Tchèques du Mississippi, un groupe qui faisait beaucoup de gospel et de country. Et ils l'ont enregistré pour la première fois en 1930. Vinson a prétendu avoir composé la chanson un matin après avoir joué toute la nuit devant des Blancs qui dansaient à Greenwood dans le Mississippi. Le titre est devenu une chanson populaire et a été intronisé au Grammy Hall of Fame en 2008. Sitting on top of the world est devenu un standard de la musique traditionnelle américaine. La chanson a été largement enregistrée dans une variété de styles différents, du folk au blues en passant par le country, le bluegrass ou encore le rock, souvent avec des variations considérables et ou même des ajouts aux couplets originaux. Les paroles de la chanson originale traduisent un optimisme stoïque face à des revers émotionnels et la chanson a été décrite comme une distillation simple et élégante du blues. En 2018, elle a été sélectionnée pour être conservée dans le registre national des enregistrements par la Bibliothèque du Congrès en qualité de chanson importante sur le plan culturel, historique ou artistique. Cette chanson, City on Top of the World, est similaire à une chanson populaire bien connue de 1920, I'm Sitting on Top of the World, donc très très proche dans le titre, mais qui elle était écrite par Ray Anderson, Sam Lewis et John Young. Et en fait, les deux chansons sont très distinctes et n'ont rien à voir. Pour moi, c'est un peu la chanson en haut de l'affiche d'Aznavour à l'américaine, moins lyrique et plus terroir. Howlin' Wolf l'avait enregistrée en 1957 et il l'avait publiée sous son nom de naissance, Chester Burnett. C'est une version connue et largement utilisée de cette chanson qui est généralement reprise par les autres, en particulier le groupe Cream d'Eric Clapton en 1968.
But now she's gone, and I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. Worked all the summer and worked all the fall. I had to take my Christmas and my overhaul, but now she gone, and I don't worry, because I'm setting on top of the world. Too hard, but now she gone, and I don't worry, because I'm sitting on top of the world. One summer day, she went away. Gone and left me, she gonna stay, but now she gone, and I don't worry, because I'm sitting on top of the world.
C'était Sitting on Top of the World par Howlin' Wolf et ses jeunes amis anglais pour OxyWeb Radio. Howlin' Wolf, de son vrai nom Chester Arthur Burnett, est né en juin 1910 à White Station, près de West Point, dans le Mississippi. Et il est mort le 10 janvier 1976 à Hines, dans l'Illinois. Et c'est évidemment un grand bluesman américain. Il a connu différents sobriquets dans sa jeunesse, comme Bigfoot ou encore Bull Cow, liés à sa taille et à son corps massif. En effet, il chaussait du 53, il mesurait 1m92 pour 124 kg. Holly Wolf, le loup hurlant si vous préférez, ou encore Chester Burnett pour l'état civil, est une des figures de proue du Chicago Blues. Guitariste, chanteur, mais aussi harmoniciste éminent, il a enregistré de nombreux albums pour la maison de disques Chess Records et a rencontré tous les grands bluesmen de l'époque, notamment Willie Dixon et Muddy Waters. Ce dernier était d'ailleurs son éternel rival au sein de Chess Records et donc du blues de Chicago. Avec un harmonica et une guitare acoustique, il était aussi une voix. Ce chant puissant, très particulier, démontre pourtant une certaine émotivité dans ses chansons. Chester Arthur Burnett a eu une influence musicale qui s'étend du rockabilly des chanteurs des années 50 jusqu'au rock and roll classique. Holly Wolf est un des plus grands, pas seulement pour sa taille, mais pour l'empreinte qu'il a laissée dans la musique. Écoutons-le interpréter Hurried About My Baby, une chanson qu'il avait composée et enregistrée à la fin des années 50. Et ici, avec Hubert Sumlin toujours à la guitare rythmique, Eric Clapton à la guitare, Graham Leigh au piano, Bill Wyman à la basse et Charlie Watts à la batterie.
Another man too. I'm worried about that, baby. Baby, I'm worried about that. Baby, I'm worried about it, baby. Then you better be worried about me. I'm gonna tell you this time it ain't gonna set no more. The next time I tell you, I'm gonna let you go. Cause I'm worried about you. Baby, I'm worried about you. You better be worried about me. Run here, baby, stand on my knees. I got something to tell you, been worrying me. I'm worried about you. Baby, I'm worried about you. Baby, I'm worried about you, baby. And you better be worried about me.
C'était Worried About My Baby, inquiet au sujet de ma chérie, Holly Wolf et ses jeunes amis anglais pour OxyWeb Radio. Dans l'introduction, j'ai rapidement évoqué Jeff Karp, l'harmoniciste, qui jouait avec Sam Lay avant que Earl Hooker, le cousin de John Lee Hooker, ne l'engage avec son guitariste Paul Asbell. Jeff et Paul, dès l'enregistrement de l'album Don't Have Worry d'Earl Hooker, ont demandé à être payés et sont rentrés chez eux. Aussi, Jafka, personne à la fois sauvage et intelligente, jouait souvent le rôle d'apaiseur dans les différents conflits auxquels il était confronté, tant à l'université qu'au milieu d'un groupe de musiciens. Âgé à peine de 18 ans quand il fut contacté par Earl Hawker, son don harmoniciste le fit acquérir une belle réputation qui le fit être convoqué dans les locaux de Chess Records pour jouer les parties de l'harmonica des différents artistes de la maison de rock. Par exemple, c'est Jeff Carr qui joue sur le morceau de Muddy Waters, All Aboard. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé convié à participer aux sessions de Howlin' Wolf à Londres. Mais dès les sessions terminées, lui et sa copine se sont offerts des vacances sur une croisière vers l'Amérique du Sud. Au milieu des festivités du réveillon de Nouvel An, un passager, perturbé, est devenu fou furieux et a commencé à poignarder les personnes. Paniqué, Jeff a sauté par-dessus bord, or comme il ne savait pas nager, il disparut ainsi. Il avait à peine 20 ans. Pour Boy Blues est une chanson de blues traditionnelle d'origine inconnue, et comme dans la plupart des chansons de blues traditionnelles, il existe une grande variation dans le contenu mélodique et lyrique interprété par différents artistes. Cependant, il existe souvent un vers central contenant une variante de la phrase « Je suis un pauvre garçon, très éloigné de chez moi » et c'est ce qu'explique le titre, qui d'ailleurs souvent paraît sous la forme « Poor boy, long ways from home »,« Pauvre garçon, loin de chez lui ». C'était donc Poor Boy, Far Away From Home par Howlin' Wolf et ses jeunes amis anglais pour OxyWeb Radio. En 1951, Howlin' Wolf est repéré par Ike Turner qui le présente à Sam Phillips, directeur du label Sun Records à Memphis. ce qui permet à Howlin' Wolf d'enregistrer son premier titre, Morning at Midnight, avec Ike Turner au piano. Ce disque sera suivi de quelques autres, et notamment How Many More Years, avec encore Ike Turner au piano. Et toujours chez Sun, bien que ce soit Chess Records qui distribue ce label. Les deux titres, Morning at Midnight et How Many More Years, seront des succès et se classeront dans les hit-parades américains de rhythm and blues. À la fin de 1952, Howlin' Wolf déménage et part à Chicago. À partir de cette date, il enregistre de nombreux titres pour Chess, dont Evil and I'm the Wolf en 1954, Smokestack Lightning en 1956, Sitting on Top of the World en 1957. Willie Dixon, compositeur et arrangeur attitré de Chess, lui écrit également plusieurs titres qui rencontrent le succès et resteront des classiques du blues, comme One Dang Doodle, Black Door Man en 1960, The Red Rooster et I'm Superstitious en 1961. Willie Dixon devient le contrebassiste attitré du groupe de Howlin' Wolf aux côtés de James Cotton à l'harmonica et d'Herb Ersolin à la guitare. Howlin' Wolf est alors l'un des trois plus importants joueurs de blues de la scène de Chicago. Cependant, ses succès restent cantonnés aux États du Sud, alors que dans ceux du Nord, ils sont ignorés. Heureusement, ils atteindront malgré tout les côtes anglaises et feront partie des influences de jeunes musiciens anglais comme les futurs membres des Rolling Stones ou des Yardbirds. Et la chanson qui suit, Who's Been Talking, de Howlin' Wolf, écrite en 1957, préfigure le titre Gypsy Queen, rendu célèbre par Carlos Santana lorsque mit à bout The Black Magic Woman. Howlin' Wolf a influencé de nombreux musiciens, blancs comme noirs, anglais ou américains, des Rolling Stones à Grateful Dead, des Yardbirds à Jimi Hendrix.
Caught the train, left me all alone. My baby caught the train, left me all alone. She know I love, she doing me wrong. My baby bought a ticket, long as my ride home. My baby bought a ticket, long as my ride on. She said she gonna ride, long as I've been for more. Everything I do, well, who been talking, telling everything I do? Well, you're my baby, I hate to lose. Well, goodbye, baby, hate to see you go. Well, goodbye, baby, hate to see you go. You know I love you, I'm the cause of it all.
Et Who's Been Talking par Olin Wolf avec ses jeunes amis d'anglais pour OxyWeb Radio.
Oh man, come on. He ain't got nothing to do with counting off and change on, and you know what you said. One.
Intéressante cette intro où le maître explique à Clapton comment jouer ce morceau appelé The Little Red Rooster, le petit coq rouge si vous préférez. C'est un standard de blues crédité à Willie Dixon. La chanson a été enregistrée pour la première fois en 1961 par Howlin' Wolf dans le style blues de Chicago. Ces jeux de guitare vocale et de slide sont des éléments clés de la chanson. Le morceau tire ses racines de la tradition du blues du Delta et son thème est dérivé du folklore. L'origine musicale de Little Red Rooster apparaît dans des chansons antérieures des artistes de blues comme Charlie Patton et Memphis Minnie. Un grand nombre de musiciens a interprété et a enregistré Little Red Rooster. Certains ajoutent de nombreux nouveaux mots et une instrumentation imitant les sons d'animaux mentionnés dans les paroles. Le chanteur américain de soul, Sam Cooke, a adapté la chanson en adoptant une approche plus up-tempo propre à la soul. Sa version est devenue une single à succès dans le hit-parade américain du rhythm and blues et de la pop en 1963. Parallèlement, Willie Dixon et Howlin' Wolf ont fait une tournée au Royaume-Uni avec le festival américain Folk Blues, qui popularisa le blues de Chicago auprès des musiciens de rock locaux. Et en particulier, les Rolling Stones ont été parmi les premiers groupes de rock britanniques à enregistrer des chansons de blues électrique. En 1964, ils ont enregistré The Little Red Rooster avec leur leader des débuts, Brian Jones, qui a marqué profondément de son empreinte leur version. Les Stones l'ont souvent interprété en concert, et notamment, il existe une version formidable datant de 1999 avec Eric Clapton de passage sur scène ce soir-là. Écoutons donc la version où les jeunes musiciens appliquent les indications du maître, à savoir les trois premiers temps où les notes ne changent pas, puis on change pour le quatrième temps.
Oh, look at
C'était The Little Red Rooster par Howlin' Wolf avec ses jeunes amis anglais pour OxyWeb Radio. La chanson suivante s'intitule Do the Do, faire ce qu'est à faire. Elle a été composée par William James Dixon, qui est né en juillet 1915 à Vicksburg dans le Mississippi. Sa mère Daisy s'exprimait en rime, une habitude que son fils a imitée et qui l'a probablement aidé à composer ses chansons. À l'âge de 7 ans, le jeune Willie Dixon est devenu un admirateur d'un groupe où jouait le pianiste Little Brother Montgomery. D'un autre côté, il a chanté sa première chanson en public au sein de l'église de Springfield dès l'âge de 4 ans. Et ainsi, Willie Dixon a été introduit au blues quand il s'est trouvé dans les prisons agricoles, les fameuses prison farms, dans le Mississippi. En effet, cet état était riche en prisons diverses, dont la fameuse Parchman Farm, qui a souvent été citée pour avoir accueilli Leadbelly. En effet, au cours de son enfance, il se frotte à plusieurs reprises avec la justice, je parle de Willie Dixon, ce qui l'amènera à quitter le Mississippi pour Chicago en autostop. Mais parallèlement, durant son adolescence, Willie Dixon a écrit des chansons et les a vendues à des groupes locaux. Il a également étudié la musique avec un menuisier local, un dénommé Theo Phelps, qui lui a appris à maîtriser l'harmonie du chant. La véritable reconnaissance de Dixon en tant que conteur-compositeur a commencé avec l'enregistrement par Muddy Waters de Hoochie Coochie Men, puis le succès des singles Evil par Howlin' Wolf et My Babe par Little Walter. Tout cela a vu Dixon devenir un mélodiste plus fiable et dès lors les frères Chess sans cesse poussaient leur artiste sous contrat à interpréter les compositions de Dixon. Contrebassiste et producteur émérite, il a dirigé beaucoup de séances d'enregistrement du label Chess Records. Voici donc Do the Do, où on peut apprécier le rythme rapide donné par les jeunes stars sans que le vieux maître ne se trouve jamais en difficulté vocale.
Till you see her, see her, do-de-do, do-de-do. Shake her show, take her time, move her body like I move mine. When she dances, you'll love her too. Once you see her, do-de-do, do-de-do, do-de-do. Position, love or two, when you see her, do the do.
C'était donc 12 doux par Howlin' Wolf avec ses jeunes amis anglais pour OxyWeb Radio. Durant les années 50 et 60, Howlin' Wolf se produit régulièrement dans les clubs de Chicago, comme le Sylvia's, qui était à l'époque l'un des plus renommés. De 1961 à 1964, il participe à des tournées en Europe, donc dans le cadre de l'American Folk Blues Festival, aux côtés de James Cotton et Hubert Sumlin. Ces années 1960 sont très riches avec de nombreux enregistrements, des concerts et des tournées américaines et européennes. Cependant, sa santé défaillante et des accidents vont peu à peu limiter son activité jusqu'à son décès en janvier 1976 d'un cancer des reins. Il est enterré au cimetière d'Oak Ridge à Hillside dans l'Illinois. Un mot sur un de ses fidèles accompagnateurs, Hubert Sumlin, né en novembre 1931 à Greenwood dans le Mississippi, dans une famille qui compte déjà 12 enfants. La famille s'installe peu après dans la ville de Hughes dans l'Arkansas. Il reçoit sa première guitare à l'âge de 7 ans et alors qu'il est encore adolescent, il commence à jouer régulièrement dans les jug joints et lors de soirées. Au début des années 50, il forme un groupe avec James Cotton. En 1954, il est engagé par Howlin' Wolf. Les deux musiciens ne se quitteront pratiquement plus malgré des disputes assez fréquentes. Dans les années 60, les jeunes groupes anglais comme les Rolling Stones, Cream, les Yardbirds, etc. se disent fortement influencés par le style d'Hubert Sumlin. Et c'est Clapton qui va insister pour que Hubert participe aussi à l'enregistrement des London Sessions. Très abattu par la mort de Howlin' Wolf, Hubert Sumlin va finalement rejoindre le groupe de The Wolfgang qui réunit en fait les anciens musiciens d'Howlin' Wolf, sous la conduite du saxophoniste Eddie Shaw. Dans les années 90, il préfère continuer une carrière solo et enregistre plusieurs albums. Il a participé plusieurs fois au festival Crossroads, invité par Clapton. Faites attention au son souple et enlevé de la guitare rythmique de ce morceau, composé par Joe Lee Williams, intitulé Highway 49, c'est Hubert Sumlin qui joue.
I'm gonna buy me a jug of wine. First, I'm gonna stop at the whiskey store. I'm gonna buy me a jug of wine. I'm gonna hit the highway. They call Highway 49. She can't be found. Melbody, my sweet woman, you know she stayed on my mind. Melbody, my sweet woman, you know she stayed on my mind. If I can't find that woman, I'm gonna sit out and drink my wine.
C'était Highway 49 par Howlin' Wolf et ses jeunes amis anglais pour OxyWeb Radio. La chanson suivante, Wadang Boodle, est une chanson de blues écrite par Willie Dixon. Le critique musical Mike Rowe appelle cela une chanson de fête dans un style urbain à la rythmique massive, battante et excitante. Elle a été enregistrée par Howlin' Wolf en 1960 et publiée par Chess Records en 1961. En 1965, Willie Dixon et Leonard Chess persuadèrent Coco Taylor de l'enregistrer pour le label Checker, une filiale de Chess Records. La version de Coco Taylor est rapidement devenue populaire, atteignant le 13e rang du Billboard Rhythm and Blues et la 58e place sur le graphic pop, sur les charts pop. One Dang Doodle est devenu un standard de blues et a été enregistré par divers artistes. One Dang Doodle a été composé donc par Willie Dixon au cours de la seconde partie de sa carrière de compositeur, c'est-à-dire entre 1959 et 1964. Dans son autobiographie, Dixon expliqua que l'expression « One Dang Doodle » signifiait en fait, surtout si le gars venait du Sud, passer un bon moment dans un bal avec beaucoup de danse. Pour lui donner un style rock, il l'appela ainsi « One Dang Doodle » et Dixon a prétendu qu'il l'avait écrite lorsqu'il avait entendu Howlin' Wolf chanter pour la première fois en 1951, mais que c'était trop en avance pour l'époque et que pour lui, il fallait la garder pour plus tard. Et lorsqu'il l'a soumise donc à la fin des années 50 à Howlin' Wolf, celui-ci aurait d'abord détesté la chanson et aurait commenté « Man, c'est un style trop vieux ». Howlin' Wolf a néanmoins enregistré la chanson en juin 1960 à Chicago au cours des mêmes sessions que Black Door Man et Spoonful. Howlin' Wolf au chant, Otis Pan au piano, Verselmlin à la guitare, Willie Dixon à la basse et Fred Below à la batterie ont fait la version originale avec un dénommé Freddie King qui a été identifié comme le second guitariste. C'est ma chanson préférée de ces London Sessions.
Bye. wash boots sound that everybody go jam. Tell Shaky and Bob's Car Joe we've got sawdust on the floor. Tell Piggy and Caroline Dye we gon' have a heck of a time. And the fish said, feel the air, the bee snuff juice everywhere. We gon' pitch a wave, wave, doodle all night long. All night long. All night long. We gon' pitch a wave, wave, doodle all night long. Let me howl to you, baby.
C'était One Dong Doodle par Howlin' Wolf et ses jeunes amis anglais pour OxyWeb Radio. Howlin' Wolf est un des premiers bluesmen à avoir électrifié sa guitare et souvent en produisant un son sursaturé. Bien qu'il ait appris le blues à une période où les musiciens improvisaient leurs morceaux à partir d'un répertoire commun, il se démarque de cette approche en cherchant l'originalité dans ses arrangements. Grâce à sa voix puissante et rocailleuse, ponctuée de phrases d'harmonica, de gémissements ou de hurlements imitant le cri du loup, Howlin' Wolf s'est créé un style bluesy facilement reconnaissable. D'ailleurs, même si c'est aussi un joueur de guitare, il sait s'entourer d'autres guitaristes pour se concentrer sur son chant exceptionnel. La voix d'Howlin' Wolf est particulière, et diverses hypothèses ont été émises pour l'expliquer. Selon certains, il parviendrait à resserrer sa gorge pour chanter deux notes simultanément. Selon d'autres, cela serait dû à une maladie enfantine qui aurait touché ses cordes vocales. Le résultat est qu'il met particulièrement en valeur les titres que Willie Dixon lui écrit. C'est ce chant âpre, avec une voix forte et déchirante, qui va marquer fortement les jeunes musiciens anglais, dont les chanteurs des premiers groupes de hard rock comme Robert Plant de Led Zeppelin ou Ozzy Osbourne de Black Sabbath. L'art d'Howlin' Wolf apparaît aussi dans ses prestations scéniques, qualifiées de tragiques et incantatoires, qui le voient comme une véritable bête de scène. S'il est influencé par le jeu de Charlie Patton, il a su développer un style qui lui est propre en se montrant torturé, en proie à de vives douleurs, exprimant en fait la réalité du blues. Parfois, il passe par des improvisations grivoises, du style « Let me hump you, baby », faites en regardant des dames dans la salle, et je vous laisse deviner le sens du propos. Voici donc « Killing Floor » que Jimi Hendrix a repris et dont la version a souvent sonné les jeunes guitaristes débutants. C'est Killing Floor qui termine la présentation de cet album que je suis très content de vous avoir présenté car il s'agit d'un des premiers albums qui soit une véritable session entre un fameux bluesman, assez ancien, et de jeunes stars du blues rock des années 60. Je rappelle qu'outre Eric Clapton, Bill Wyman, Charlie Watts, Ian Stewart, mais aussi Steve Winwood ou Jeff Karp se sont associés à Hubert Zumlin pour réaliser des versions modernisées de standards du blues du répertoire de Lynn Wolf. Une entreprise qui, pour moi, s'est révélée très réussie. La semaine prochaine, je ferai une émission spéciale sur les groupes français qui ont produit à cette époque des titres intéressants, même si souvent ils sont très oubliés. Mais d'ici là, ben où les blues.